Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville.
J'avais donc abordé à la fin de mon dernier exposé la narration de la grande crise climatique et alimentaire qui dévaste le Tiangnan juste avant la chute des Ming et avant l'invasion mandchoue. Et narration est en effet le mot qui s'impose en l'occurrence, puisque j'ai choisi de prendre comme fil conducteur le Tijenti Wenlu, donc cette chronique de Suzhou à la fin des Ming et au début des Qing, rédigée en forme de témoignage, enfin avec une forte qualité de témoignage, par un auteur dont nous ne connaissons pas le nom, et donc un texte dont j'ai déjà eu l'occasion de parler assez longuement, dont il est inutile, je pense, que je réécrive le nom. Cette narration, j'ai été conduit à la retarder un peu la dernière fois, parce qu'il m'avait semblé utile de vous introduire, sans trop entrer dans le détail, mais quand même de manière assez, disons, systématique, à l'environnement dans lequel se sont déroulés ces événements. Il est en effet indispensable de les mettre en perspective, ces événements, c'est-à-dire de bien les situer dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est bien sûr la topographie, l'hydrographie, l'écologie, le régime climatique, et c'est surtout le type d'aménagement du sol, ou au sol, qui caractérise le bassin du Tiangnan, comme on l'appelle souvent, le delta du Yangtze, pendant le second millénaire de notre ère, puisque, comme je l'avais rappelé, c'est au début de cette période, et en fait un peu avant, au Xe siècle, que s'est mise en place, ou on pourrait dire que c'est inscrite dans l'espace, la structure très particulière d'irrigation et de drainage que j'ai décrite la semaine dernière. Et nous voici donc déjà dans le temps, parce que l'occurrence est surtout l'impact, du point de vue des populations, l'impact de ce qu'on est convenu d'appeler les calamités naturelles, ne peuvent se comprendre qu'en les replaçant dans la longue durée historique, par opposition bien sûr à la longue durée géologique qui ne nous concerne pas ici. Or, cette longue durée historique, elle concerne deux types bien distincts de processus. D'une part, elle concerne un processus naturel qui est grosso modo le même que dans tous les deltas fluviaux dans le monde entier. Je veux dire l'accumulation séculaire des terrains alluviaux, les changements constants d'hydrographie qui en sont la conséquence, l'avancée des terres dans la mer, et ainsi de suite. Et à ce propos, je précise quand même que lorsque je parle de delta du Yangtze, comme tout le monde le fait en parlant de cette région, ce ne sont pas les eaux en fait du Yangtze qui charrient les matériaux alluviaux qui viennent s'accumuler dans la plaine du Tiangnan et qui avancent dans la mer aussi sur la rive sud de l'estuaire du Yangtze. Ce sont les eaux des rivières qui drainent le lac Taihu, c'est-à-dire ce vaste réservoir qui est lui-même alimenté par une multitude de cours d'eau se formant dans les massifs de collines au sud et au sud-ouest du bassin. Mais là-dessus, je vous avais distribué une carte tout à fait parlante. Et d'autre part, donc d'une part un processus naturel et d'autre part un processus artificiel d'aménagement humain qui, dans le cas de la plaine du Tiangnan, et notamment de ce que j'ai appelé, après l'historien japonais Yoshinobu, sa partie concave, c'est-à-dire la partie la plus basse, qui est avec un relèvement le long des côtes du Yangtze et de la mer, ce processus accompagne et en même temps accélère la croissance démographique et la densification des terres cultivées et des habitats. Et ce processus, c'est donc, comme nous l'avions vu, la création de ce qu'on peut appeler un maillage, qui devient de plus en plus serré avec le temps, un maillage de polders et de canaux, plus exactement de canaux encadrant des polders, c'est-à-dire des sites cultivés entièrement enceints de digues, de diguettes plutôt. Donc un maillage de polders et de canaux, les canaux ayant une double fonction d'irrigation et de drainage suivant les besoins. Et l'important ici, c'est que l'accaparement des anciens marécages de cette zone, donc dite concave, par des zones cultivées, protégées derrière des digues, réduit d'autant les espaces pour stocker les crues, stocker les inondations provoquées par des précipitations exceptionnelles. Et il augmente donc les risques d'inondations générales, et d'une manière plus générale, justement, il retentit évidemment sur le processus naturel d'alluvionnement que je viens de mentionner. Donc on a plusieurs processus qui fonctionnent ensemble et qui retentissent les uns sur les autres. Et à ce propos, j'avais parlé d'une sorte de cycle, et même de ce que j'ai appelé un cycle hydraulique, résultant de l'interaction entre ce processus continu d'alluvionnement, d'une part, et d'autre part, les efforts périodiques pour rétablir le drainage du bassin, c'est-à-dire pour remettre en état la grille de canaux à l'intérieur de laquelle sont aménagés les pôles d'air, et surtout pour remettre en état les rivières naturelles, encore que très aménagées, qui évacuent les excédents d'eau vers l'estuaire du Yangtze et vers la mer. Donc ça, tout cela encore apparaîtrait très clairement sur la carte. Et nous avions vu qu'au XVe siècle, et en fait, ce que je n'avais pas mentionné, c'est déjà vrai dans les dernières décennies du XIVe siècle, la durée où on peut observer un cycle qui anticipe légèrement, dont le départ anticipe légèrement la fondation des Ming. Donc, pendant cette période, fin du XIVe et pendant toute la durée du XVe, la durée de ce cycle dont je parle semble s'être établie autour d'une quarantaine d'années. Pendant le siècle suivant, en revanche, la situation s'est détériorée au sens où, d'un côté, le processus de dégradation des aménagements hydrauliques s'est manifestement accéléré, tandis que, de l'autre côté, la volonté politique du pouvoir central et les ressources financières qu'il pouvait mobiliser se sont manifestement affaiblies. Et cet affaiblissement s'est traduit donc par une moindre fréquence des grandes campagnes de travaux au cours desquelles on s'est forcé de restaurer l'efficacité du mécanisme de drainage du bassin. Et nous avions aussi vu que les Ming n'ont plus été capables de lancer de campagnes de ce type après 1570 et qu'on ne rencontre en fait aucune entreprise de dimension régionale avant 1670, donc un siècle plus tard, c'est-à-dire déjà sous la dynastie des Qing. Tout ceci concerne au premier chef le problème des excès d'eau, autrement dit des inondations qui se produisent dès lors que surviennent des précipitations d'une abondance et surtout d'une durée hors de la normale, et dès lors que la capacité du système à évacuer ces crues est, c'est bien le cas de le dire, est débordée. Mais j'ai aussi parlé des chertés et des famines provoquées par la sécheresse, cette fois-ci, auxquelles nous allons revenir tout de suite à propos des années 1640 et en fait de la fin des années 1630. Et là, comme nous l'avons vu, il faut faire intervenir un cycle climatique de beaucoup plus grande ampleur, qui est donc cette période de relatif refroidissement et de relatif dessèchement que l'on appelle parfois le petit âge glaciaire, lequel petit âge glaciaire est, comme on sait, un phénomène mondial, et en tout cas qui a été observé à l'échelle de l'Eurasie, mais je crois dans le monde entier. Le siècle que l'histoire met au centre de ce petit âge glaciaire, c'est le XVIIe siècle, et le phénomène qui est clairement, très clairement identifiable dans les sources chinoises, semble avoir connu son apogée ou son plus bas niveau, faudrait-il plutôt dire, pendant le dernier demi-siècle des Ming, c'est-à-dire la première moitié du XVIIe, précisément. Donc la période à laquelle nous nous intéressons. Mais là encore, les effets sur le terrain de phénomènes qui relèvent de l'histoire du climat sont inséparables de l'action de l'homme. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le réseau, ou plutôt la grille très dense de canaux, parfois de simples fossés en fait, qui est la marque de l'aménagement du Jiangnan, sur laquelle repose la prospérité de son agriculture, et qui décuple également, et ça je ne l'avais pas dit mais c'est très important, décuple également les capacités locales de transport et de circulation, donc de commercialisation de l'économie indirectement, cette grille sert non seulement au drainage mais aussi à l'irrigation. Et l'importance de l'irrigation pour la riziculture n'a évidemment pas besoin d'être rappelée. En d'autres termes, ce processus de dégradation périodique des dispositifs hydrauliques dont j'ai parlé et dont la conséquence est un envasement et une capacité amoindrie, un débit amoindri des innombrables voies d'eau de la région, ce processus signifie une diminution non seulement des capacités de drainage, mais aussi des ressources en eau disponibles pour l'irrigation. Et c'est donc lorsque cette capacité amoindrie rencontre un déficit pluviométrique sérieux et surtout un déficit pluviométrique se plaçant au mauvais moment dans le cycle agricole, par exemple, et de façon typique, et nous en verrons des exemples, au moment du repiquage du riz, qui intervient en été, c'est lorsque on a cette conjonction de l'accident climatique et, si je puis dire, du manque de préparation et d'entretien, que la situation peut effectivement devenir difficile et, dans les cas les plus sérieux, qu'elle peut déboucher sur un véritable désastre. Cela étant, il est quand même indispensable de rappeler, pour ne pas tomber dans une sorte de schématisme technologique, que les choses sont un peu plus complexes que cela et que d'autres facteurs interviennent que la pluie qui tombe, ou qui ne tombe pas en l'occurrence, et l'état des rigoles d'irrigation pour déterminer l'occurrence et l'impact des sécheresses. Le manque de préparation, pour ne donner qu'un exemple, c'est aussi l'incapacité des autorités à maintenir des réserves de grains suffisantes pour atténuer les conséquences d'une ou plusieurs récoltes manquées. Et j'avais fait allusion à cette question d'ailleurs à partir de certaines remarques faites au passage d'ailleurs par Sujetio dans son autobiographie. C'était dans sa préfecture natale de Chuzhou qui notait, c'était vers 1725 je crois, en tout cas pendant le règne Tianqi, qu'il notait que le niveau des réserves de l'État avait énormément diminué depuis le règne Wanli. Et plus généralement, c'est l'absence de procédures d'intervention bien rodées et susceptibles d'être mises en œuvre rapidement et efficacement. En d'autres termes, l'absence d'un véritable programme de ce que j'ai appelé en français d'administration de la famine, qui est également un facteur déterminant. Administration de la famine, j'ai certainement déjà mentionné ce terme, et ma façon de traduire le mot chinois qui parle de ça, c'est-à-dire... Oui, je suis sûr que j'ai déjà. Huangzheng. Et plus généralement encore, il y a la question des priorités de l'État. Lorsque la nécessité d'administrer des secours ou d'alléger la pression fiscale entre en compétition avec les besoins de la défense, c'est toujours la défense qui l'emporte. Et vu du Tiangnan à la fin des Ming, cela signifie que, quelles que soient les circonstances, famine ou pas, le gouvernement central refuse systématiquement d'accorder la moindre réduction d'impôts, tout spécialement lorsqu'il s'agit du tribut en grains qui était expédié au nord. Car approvisionner les troupes qui font face aux Mandchous dans le nord-est, ceci dès avant 1620, celles qui sont envoyées à la poursuite des forces rebelles qui sillonnent tout le nord de l'Empire et même partie du centre à partir de 1628, c'est pour la dynastie une question de vie ou de mort. Or, affirment les autorités centrales à chaque fois, et ceci est mentionné systématiquement dans le Tianjin Tianlu, les coffres sont vides et il est totalement impossible de sacrifier les rentrées fiscales. Nous en avions vu d'ailleurs un exemple la semaine dernière, rapporté toujours dans cette même source, datant de 1625. Et nous allons voir que cette insensibilité manifeste du pouvoir dynastique, en tout cas à cette époque-là, les ultimes années des Ming, aux souffrances de ses sujets au Tiangnan, ne va faire que s'aggraver dans les toutes dernières années du régime, lorsque le financement des armées devient une véritable obsession pour le trône. La réponse aux suppliques des autorités locales ou des gouverneurs de province pour accorder des exemptions aux populations, c'est-à-dire en fait aux propriétaires, la réponse c'est souvent, et nous allons en voir un exemple, c'est d'accentuer encore la pression fiscale. Pour revenir aux questions d'aménagement de l'environnement, je disais au début que les faits que je vous ai exposés la semaine dernière et que je viens de rappeler dans leurs grandes lignes sont importants pour donner un minimum de perspective historique et de contexte spatial aux événements dont nous nous occupons en ce moment. C'est que cette perspective et surtout ce contexte, nous ne les trouvons pas ou à peine dans les témoignages et dans les souvenirs sur lesquels je m'appuie. Même pas dans une chronique relativement cohérente et détaillée comme le Tianjin Tianlu. Il y a là un problème d'historiographie sur lequel je voudrais encore m'assurer que nous sommes bien au clair avant de poursuivre. Disons que L'immédiateté des témoignages, de quelque nature qu'ils soient, est ce qui nous les rend si précieux, certes, mais que, en même temps, c'est ce qui en marque les limites. Les auteurs de ces témoignages cherchent rarement à analyser l'arrière-plan des événements ou des aventures qu'ils relatent. En tout cas, à l'analyser comme le ferait un historien, même un historien chinois traditionnel, enfin ancien. Et cela, tout simplement parce que ce n'est pas ce qui leur importe et ce n'est pas ce qui les a poussés à écrire. Ce qui leur importe, c'est justement l'histoire immédiate, ce sont les événements extraordinaires, sans précédent connu, comme ils disent toujours, dont ils ont été témoins, c'est l'impact que ces événements ont eu sur leur propre vie, ce sont les épreuves qu'eux-mêmes et leurs proches ont endurées, et ce sont leurs propres réactions à tout cela. Les impressions qui restent encore vivaces des années après, et je dirais même le sentiment d'émerveillement, de stupéfaction devant le jamais vu. Et le maître mot dans ces récits, répété constamment, c'est le mot « i », qui signifie, entre autres sens, « extraordinaire », différent de l'ordinaire. C'est le mot « i », et ce mot « i », je le note au passage, est le mot qui donne aussi leur titre dans les monographies locales et même, en fait, à l'origine, dans les histoires dynastiques, aux chapitres qui sont spécialement consacrés aux phénomènes extraordinaires, c'est-à-dire au dérèglement du cours normal des choses, et toujours avec une perspective, de prédiction, enfin une perspective d'une connotation de présage, que ce présage soit bon ou qu'il soit mauvais. Et si bien qu'on a, c'est toute une très grande banalité, mais on retrouve toujours ce mot, des chapitres qui s'appellent soit Xiang, c'est-à-dire dérèglement de bon augure, ou phénomènes extraordinaires et événements de bon augure, soit, où il y a encore d'autres combinaisons d'ailleurs, mais ce sont les plus fréquentes, soit Tsai, c'est-à-dire calamité et phénomènes anormaux. Donc, toujours cette notion d'anormal qui est vraiment au centre de ces témoignages de la fin des Ming dont nous parlons. Et de ces anomalies, d'ailleurs, aussi bien dans ces chapitres de monographie ou de ces chapitres des histoires, il y a aussi ces chapitres dans l'histoire dynastique qui s'appellent aussi parfois, et ça vous donne aussi leur raison d'être, les cinq éléments, c'est-à-dire qu'ils jouent sur ils s'intéressent plutôt aux phénomènes qui marquent la succession des cinq éléments dans la cosmologie chinoise traditionnelle. Donc on est toujours dans ce même domaine, et encore une fois, les désastres naturels auxquels je m'intéresse ne sont qu'un exemple, parmi beaucoup d'autres, de ce genre d'anomalie ou de dérèglement. Vous avez également des veaux à cinq pattes, des plantes qui poussent bizarrement, et des choses comme ça. Et c'est la même chose dans le Tijunti Wenlu d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que l'horizon du témoin reste par définition un horizon limité. Limité à sa propre expérience et à ses propres perceptions, et aussi limité à sa propre durée, qui est au maximum la durée d'une vie. Et pour contribuer à l'histoire, pour l'enrichir, pour la rendre plus concrète et pour lui rendre surtout sa dimension d'expérience humaine, le témoignage que ces auteurs nous proposent doit être justement replacé dans cette histoire qui, à la base, est essentiellement une abstraction reconstruite par les historiens. Et cela est d'autant plus vrai, me semble-t-il, qu'il y a beaucoup de choses que les témoins ne voient pas, ou des choses dont ils ne voient presque toujours que les aspects très limités qu'ils sont capables de percevoir parce que ces événements surviennent dans leur champ de vision, en quelque sorte. Et plus important encore, des aspects très limités qu'ils perçoivent parce qu'ils les concernent directement. Reconstruire la crise finale des Ming au Tiangnan en se basant uniquement sur des témoignages comme ceux dont je me sers ici donnerait un résultat peut-être richement détaillé et certainement très vivant, et c'est bien pour cela que je me sers de ces matériaux et que je vous en parle, mais en quelque sorte un résultat déstructuré et ne fournissant que des perspectives encore une fois limitées et inévitablement partielles. En fin de compte, tout le problème, c'est d'arriver à connecter la vie au jour le jour des témoins, la vie vécue, telle qu'ils la relatent eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, les évolutions de longue durée et les changements structurels qui en déterminent indirectement, de cette vie vécue, la forme, les circonstances, les contraintes, et même, dans des périodes comme celles que nous étudions, certains accidents vécus comme particulièrement dramatiques. Encore une fois, ces tendances et ces évolutions lentes échappent pour leur plus grande part à ces observateurs de l'immédiat, ou au mieux, pour les plus lucides et les plus réfléchis ou les plus réflexifs d'entre eux, il n'est possible d'en avoir qu'une notion intuitive, pas nécessairement fondée et évidemment pas scientifique. Comme je l'ai déjà noté, une appréhension scientifiquement fondée, autant qu'il est possible, des raisons pour lesquelles l'environnement physique dans lequel évoluent nos mémorialistes et nos témoins du Tiangnan pendant les dernières années des Ming est ce qu'il est, et pourquoi il est soumis à de telles contraintes et sujet à de tels accidents, une telle appréhension ne peut se construire qu'en collectant une multiplicité de données, le plus souvent parcellaires et formulées de façon très abstraite ou très en style télégraphique quasiment, dans des sources éparpillées. Et là, j'avais mentionné la principale de ces sources, qui est le corpus des monographies locales, et donc de collecter toutes ces données et d'essayer de leur donner un sens et une structure. Tout cela étant posé, j'en reviens à nos témoignages à la première personne. J'ai donc pris le Tsijun Tiwenlu comme fil conducteur, et j'avais commencé, à la fin de mon dernier exposé, d'en suivre le récit pour tout ce qui touche à notre sujet présent, c'est-à-dire aux accidents climatiques et à leurs conséquences économiques et sociales. Et n'oublions pas que, dans la continuité du texte, les événements de cette nature viennent en fait s'insérer au milieu d'une quantité d'autres informations et même d'anecdotes de toutes sortes, dont certaines sont du plus grand intérêt et d'autres, il faut bien le dire, sont assez oiseuses. La chronique du Tsijun Tiwenlu commence en 1621, nous l'avions vu, mais jusqu'à la fin des années 1630, elle ne mentionne en fait qu'un seul épisode de catastrophe, si vous voulez, mais un épisode qui s'étale sur deux années consécutives. Et ce sont donc, en 1624, des inondations réputées avoir englouti la plus grande partie de la région, même si le texte n'y fait allusion que de manière, en fait, dans ce cas-là, très brève. Et le principal problème aux yeux de l'auteur semble avoir été la mauvaise volonté des tenanciers à payer leur rente après, en prétextant cet événement. Mais l'année suivante, 1625, est traitée nettement plus en détail. C'est une année de famine dans toute la région, est-il expliqué, une année où l'agitation couve et où elle est en particulier entretenue par les exigences impitoyables du gouvernement central en matière fiscale. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour le trône, il n'est pas question d'accorder le moindre report ou la moindre remise pour la livraison du tribut en grain. Et le commissaire, nous l'avions vu tout ça, le commissaire désigné par Pékin pour administrer le tribut se montre d'une extrême brutalité. Et c'est aussi en 1625, à en croire l'auteur de cette même chronique, que les prix se mettent à monter brusquement jusqu'à un niveau qu'il affirme être sans précédent, c'est-à-dire un niveau de 1,211 d'argent par che, c'est-à-dire par hectolitre. Enfin, tous ces prix que je vais citer, mais rapidement, sont toujours en once d'argent, c'est-à-dire en liang, par che. J'hésite à employer le mot plus pratique de taël, qu'on emploie très souvent en historiographie, parce que c'est plutôt un mot de l'époque des Qing. Enfin, des onces d'argent, donc à peu près 35 grammes d'argent, chose comme ça, par hectolitre de grain. Donc 1,2. Et cette brusque hausse suscite, dit l'auteur, la panique chez les petites gens. Et il ajoute cette notation intéressante, et qu'il réitérera plusieurs fois dans la suite de la chronique. Il ajoute que le public finit par s'habituer à ces prix qui, au début, semblaient invraisemblables et impossibles, et qui semblaient vraiment être des prix de crise. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire sur cette question des prix, qui est toujours d'une extrême complexité pour l'historien, et encore plus complexe pour moi d'ailleurs. Elle est complexe parce qu'elle fait intervenir une multiplicité de facteurs dont les interactions ne sont pas toujours évidentes à débrouiller. Je veux dire qu'on n'a pas affaire à une corrélation simple entre le résultat des récoltes et les prix observés sur les marchés, même s'il est clair qu'une récolte catastrophique se traduit toujours par une forte hausse des prix. Enfin, plus ou moins forte et surtout plus ou moins durable en fonction, justement, d'autres facteurs. Parmi ces autres facteurs, il y a d'abord, encore une fois, l'importance des réserves disponibles localement. Que ces réserves soient des réserves de grains, que ces réserves soient des réserves publiques ou que ce soit des réserves privées. Et ensuite, il y a la possibilité d'accéder aux marchés extérieurs et d'importer des grains pour combler le déficit de la région, si je puis dire, sinistrée. Or, à Suzhou, l'accès aux marchés extérieurs était en quelque sorte maximal. Suzhou était, dès l'époque des Ming, le marché le plus actif de Chine pour les grains, et elle en importait annuellement des quantités considérables, se chiffrant déjà sous les Ming, au bas mot, par centaines de milliers d'hectolitres. Elle les importait depuis les provinces du Moyen Yangtze, auxquelles s'ajoutera, alors ça c'est plus tard, c'est au XVIIIe siècle, auxquelles s'ajoutera le Sichuan, donc la province la plus à l'ouest sur le haut cours du Yangtze. Une partie de ces grains importés à Suzhou était consommée sur place, dans la région, car, comme je pense l'avoir déjà noté, la balance des subsistances était structurellement déficitaire au Tiangnan, ceci pour diverses raisons, tels que le taux d'urbanisation, déjà, qui était certainement le plus élevé de Chine à la fin de l'époque impériale, le développement de l'artisanat et des cultures commerciales, par opposition aux cultures vivrières, etc., etc. Je n'insiste pas là-dessus. Mais si une partie de ces importations était donc consommée sur place et était mise sur le marché pour les consommateurs locaux, une large partie était réexportée. Elle était réexportée vers d'autres régions déficitaires, ou alors elle l'était en Chine du Nord sous la forme tout simplement du tribut en grains destiné à Pékin. En effet, si le tribut était en théorie un impôt en nature, donc que les contribuables locaux devaient verser sous forme de grains, en réalité une proportion importante du tribut à livrer était achetée sur le marché par les contribuables du Tiangnan. C'était donc des grains dont la plus grande partie venait d'ailleurs. Et ceci explique probablement que, en 1625, l'auteur du Cijun, Tiwenlu, fasse implicitement la connexion entre, d'un côté, les exigences féroces de l'administration du tribut et, de l'autre côté, la brusque hausse des prix à Suzhou, dont il parle. Quoi qu'il en soit, même en année de disette, Suzhou était, d'une certaine manière, protégé par son accès permanent à des marchés extérieurs qui étaient en principe bien achalandés, puisqu'ils se situaient, ils étaient placés dans des régions excédentaires en grains. Encore fallait-il bien sûr que ces marchés extérieurs ne soient pas eux-mêmes victimes du même genre d'accident de parcours, auquel cas la situation pouvait réellement devenir grave et le mouvement des prix pouvait grimper alors très haut. Et c'est précisément ce qui se passera au début des années 1640, dont nous reparlerons, car à ce moment, la crise climatique et la famine, sans parler des ravages de la guerre civile, frappe simultanément tout un ensemble de provinces, aussi bien dans le centre et l'est de la Chine que dans le nord. On peut d'ailleurs ajouter que l'accès aux marchés extérieurs, dont les importations font donc baisser les prix, a aussi, quand il fonctionne bien sûr, a aussi un effet démultiplicateur sur les marchés locaux, dans la mesure où il décourage le stockage spéculatif sur place et dans la mesure où il pousse les détenteurs de réserves privées ou commerciales, lesquelles réserves pouvaient être tout à fait considérables dans une région comme le Tiangnan, où il les pousse à s'en défaire plutôt que de s'asseoir dessus en attendant que les prix continuent à monter. Donc les importations, l'arrivée de grains extérieurs sur les marchés tendent à pousser les détenteurs de stocks locaux à les mettre eux aussi sur le marché, puisque les chances de future hausse des grains, du prix des grains, semblent découragées par ces importations. Mais en dehors du marché, il y a bien d'autres facteurs, et là, je ne veux pas entrer dans le détail de mécanismes dont, encore une fois, je ne maîtrise pas toujours très bien la complexité. Je me contenterai simplement de mentionner, au moins pour mémoire, le facteur monétaire, qui est très souvent signalé dans les textes d'époque, non seulement par les fonctionnaires, mais également par les auteurs de témoignages ou de chroniques privées. Le facteur monétaire, donc. En effet, le prix des denrées est fonction, ça au moins, bien que n'étant pas économiste, je le comprends, est fonction non seulement de la production, mais aussi de l'offre monétaire. Et dans la Chine des derniers siècles de l'Empire, disons surtout depuis le XVIe siècle, il est fonction non seulement de l'offre monétaire, mais également, et là ça devient souvent très compliqué, du prix relatif des différentes monnaies, puisque les deux monnaies de base dans l'économie et qui fonctionnent à des niveaux très variables sont d'une part les lingots d'argent et d'autre part les pièces de cuivre. Or, depuis le milieu du XVIe siècle, le commerce international de la Chine faisait entrer dans le pays, dans l'Empire, et notamment dans les provinces côtières du Sud-Est, d'où ce commerce partait bien sûr, faisait entrer des quantités considérables d'argent, de métal argent sous forme de lingots, en provenance aussi bien des Amériques que du Japon. Et ceci signifie bien sûr que l'offre monétaire n'a pas cessé d'être en augmentation, si bien que, en tout cas dans la longue durée, si bien qu'on a pu parler d'un phénomène en fait d'inflation, une inflation très lente d'ailleurs, qui a débuté, semble-t-il, au début du XVIIe siècle, au plus tard, une inflation très lente, mais qui se poursuit avec des hauts et des bas jusqu'au début du XIXe siècle, jusqu'au moment où le trafic de l'opium change complètement les données en matière de commerce international de la Chine. La seule exception, en fait, à cette lente inflation depuis la fin du XVIe siècle, en fait, jusqu'au début du XIXe, la seule exception, c'est ce qu'on appelle parfois la déflation Kangxi, c'est-à-dire une période de quelques de 20 ou 30 ans qui s'y situe entre à peu près 1650 et 1680, je dirais, pendant lesquelles il y a eu, au contraire, un effondrement des prix, dont parlent certains d'ailleurs de nos mémorialistes, mais alors plus tard que la période qui nous intéresse en ce moment. Ce qui m'intéresse dans la remarque de l'auteur du Tijunti Wenlu sur la hausse soudaine des prix des grains en 1625, ce qui m'intéresse, c'est qu'il affirme que c'était quelque chose de nouveau, qu'il s'agissait d'un phénomène qui n'avait pas de précédent, suivant la période, suivant la formule consacrée, et qu'il emploie d'ailleurs lui-même, Zhongxian Su Weiyo, quelque chose qui n'existait pas avant. Or, ce n'est apparemment pas le cas. C'est à tout le moins ce que suggèrent les chiffres que ce n'est pas le cas, c'est ce que suggèrent les chiffres rassemblés par une des meilleures spécialistes de la question, qui est l'historienne japonaise Kishimoto Mio, dont j'avais déjà cité le nom, je vous en avais même donné certains titres, l'année dernière, en raison de ses travaux sur... Kishimoto Mio... de ses travaux sur le Linianti, sur l'autobiographie de Yao Tingling, dont j'ai très longuement parlé l'année dernière, et à laquelle je vais d'ailleurs revenir dès la semaine prochaine. Donc Kishimoto Mio, voilà. À mon avis, vraiment une des plus brillantes historiennes. Historien ou historienne japonais actuellement. L'histoire des prix sous les Ming, sur lesquels elle a travaillé dans les années 80 et début 90, l'histoire des prix sous les Ming n'est en fait pas facile à faire car, contrairement à ce qui se passe sous les Qing, on ne dispose d'aucune série continue de prix, ni d'archives contenant des rapports mensuels sur les prix locaux, comme ce sera le cas à partir de 1740 environ. Mais on peut toujours compiler les prix mentionnés ici et là et essayer de voir si ces prix, donc dispersés en quelque sorte, révèlent des tendances. Et c'est justement ce qu'a fait Kishimoto Mio pour le prix du riz dans quelques préfectures du Jiangnan à partir de la fin du XVIe siècle. À commencer par Suzhou qui offre en fait les données les plus nombreuses. Sa principale source pour ce travail, ce sont les monographies locales de la région. Mais elle cite aussi quelques autres textes, et notamment le Tijunti Wenlu, qu'elle ne cite d'ailleurs, enfin en tout cas dans le tableau de prix qu'elle donne à un moment dans son ouvrage, qu'elle ne cite que pour l'entrée de 1625 dont nous sommes en train de parler. Elle aurait en fait pu ajouter un bon nombre d'autres chiffres dispersés qui sont cités soit dans ce même texte, soit dans d'autres du même genre, et qui sont également cités dans les autobiographies et dans les journaux, auxquels je reviendrai un peu plus tard. Donc on voit des mentions de prix. On pourrait en compiler encore plus que l'a fait Kishimoto. Mais l'un des problèmes, évidemment, c'est que ces prix cités isolément sont le plus souvent des prix de crise, considérés comme exceptionnels et anormaux. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que les auteurs les mentionnent. Mais même ainsi, on constate que Suzhou a connu des prix bien plus élevés et des mouvements de prix bien plus brutaux que cette hausse à 1,211 par hectolitre mentionnée en 1625. Par exemple, pendant la série de terribles calamités qui frappent le Tiangnan en 1588 et 1589, que j'avais évoqué la semaine dernière, donc des inondations suivies d'une très grande sécheresse et surtout d'une vague d'épidémie, pendant cette série de calamités, le prix du riz à Suzhou grince jusqu'à 1,811 par che, ceci à partir d'un niveau moyen au début du règne de Wanli, dans les décennies précédentes, immédiatement précédentes, un niveau moyen qui se situait très bas, autour de 0,30. Ensuite, pendant les inondations de 1608, on a un chiffre de 1,2 déjà. Pendant celle de 1620, le chiffre monte jusqu'à 1,4 et 1,8 dans certaines sous-préfectures. Et parce qu'il faut bien voir aussi que ces chiffres sont dispersés non seulement dans le temps, mais dans l'espace. C'est-à-dire que même des sous-préfectures voisines dépendant toutes de Suzhou peuvent avoir des circonstances, connaître des circonstances différentes. Et je le signale au passage parce que ça reviendra plus tard. Là où les hausses de prix sont les plus brutales en général, c'est dans la frange côtière, dont j'ai un peu plus élevée d'altitude, dont j'ai parlé la dernière fois, où on cultive le coton et où donc les gens sont beaucoup plus qu'ailleurs dépendants sur les marchés pour leur alimentation. Enfin, 1,4 jusqu'à 1,8 en 1620, et des chiffres de 1,4 et 1,5 sont cités en 1624, donc la veille de l'année dont je parle. Il est vrai que ce n'était pas à Suzhou, dont les marchés étaient peut-être, les marchés de la ville de Suzhou, étaient peut-être mieux à même d'atténuer le choc que dans, comme je viens de le dire, dans certaines autres sous-préfectures. Et enfin, pendant la grande crise du début des années 1640, dont nous parlerons plus tard, on atteindra des niveaux bien plus élevés jusqu'à des sommets de 4 ou 5 onces par che. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, toujours d'après Kishimoto, ces chiffres s'inscrivent dans un contexte de hausse régulière depuis, d'après elle, la fin du règne Wanli, c'est-à-dire les années, disons, 1610. Et cela pourrait expliquer cette remarque a priori un peu curieuse de l'auteur du Tijun Tiwenlu que les gens s'habituent à des prix élevés. De même, d'ailleurs, il signale en 1637 que les prix n'ont cessé d'augmenter. Il cite des prix comparables à ceux de 1625 et il parle de prix d'années de disette, hein, c'est-à-dire Huangsui Zhijia, alors qu'en fait, il n'y a aucune disette, il le souligne. Et il ajoute, mais les habitants du Tiangnan y sont habitués comme à quelque chose de normal. Or, s'habituer à la hausse des prix comme à un fait de la vie quotidienne, quelque chose de normal, c'est exactement un comportement typique des périodes d'inflation, et c'est bien sûr ce que nous confirme notre propre expérience. Cela étant, si je me suis un peu attardé sur cette question des prix, c'est pour illustrer les limites de témoignages comme celui-ci et beaucoup d'autres du même genre. Ce prix de 1,211 d'argent par che, l'auteur l'a certainement observé et c'est une donnée à retenir. Mais lorsqu'il affirme qu'on n'a jamais rien vu de pareil et que c'est à partir de ce moment-là, dit-il, que les prix du Tiangnan ont commencé à monter fortement, il nous induirait en erreur si nous n'avions pas la possibilité de confronter ces affirmations à l'ensemble de données patiemment reconstituées par les historiens modernes. En tout cas, et comme je l'avais souligné en conclusion la semaine dernière, dès ces quelques notations, encore très brèves, on rencontre dans le Tijun Tiwenlu plusieurs motifs qui vont être considérablement développés dans les épisodes beaucoup plus circonstanciés qui suivent. Ces motifs, ce sont une sorte de nervosité générale dans le public, le genre de tension sociale, dont l'exemple canonique dans cette région est la tension entre propriétaires et locataires de la terre. C'est la menace de troubles dès que les gens redoutent d'être exploités par l'État en année de disette. C'est la violence fiscale de la part d'un État qui est financièrement aux abois. Et enfin, donc, c'est la hausse rapide des prix. Si Tijun Tiwenlu ne mentionne pour ainsi dire aucun accident climatique ou épisode de disette sérieux entre ces événements de 1625 et la sécheresse de 1638, dont je vais tout de suite parler, on note en revanche, pendant une douzaine d'années, ce qui semble bien être une montée de l'insécurité. Une sorte de phénomène de fond, dans la mesure où, justement, aucune crise de subsistance majeure ne vient perturber l'ordre social. Au niveau de ce seul texte dont je suis en train de parler, on ne peut bien sûr parler que d'une impression d'insécurité montante. Mais enfin, l'auteur semble tout d'un coup multiplier les faits divers, relatant les méfaits de tel ou tel potentat, l'attaque de la résidence de tel ou tel personnage connu pour sa richesse insolente. Il parle aussi d'un début de mutinerie parmi les troupes qui n'ont pas été payées. Il cite divers épisodes de pillage et il évoque à plusieurs reprises les méfaits de ces jeunes schnappants, cette expression que j'avais déjà citée, de ces mauvais jeunes gens, de ces mauvais jeunes sans occupation connue, très exactement, Wulai, qui sont une des figures, dirais-je, emblématiques du désordre et des comportements antisociaux dans la Chine de l'époque. Il y a bien sûr aussi les exactions récurrentes des officiers et des troupes chargées de collecter le tribut en grain, également un nombre inhabituel d'exécutions publiques qu'il mentionne explicitement certaines années. Et enfin, à partir de 1629, il y a les nouvelles inquiétantes concernant la sécurité de la capitale de l'Empire, les raids des Mandchous qui se multiplient, par exemple l'attaque des tombes impériales au nord de Pékin, les fameux tombeaux des Ming, en 1635, est perçu comme particulièrement grave, cela va de soi sur le plan symbolique. Tout cela, disons, suggère une certaine ambiance, une ambiance de mauvais augure que le mémorialiste du Tijun Tiwenlu me semble particulièrement habile à faire passer. J'ai fait allusion tout à l'heure à ces prix de disette mentionnés en 1637, même en l'absence de tout accident climatique, avec cette précision que les gens y sont maintenant habitués. Mais les choses commencent à réellement se détériorer l'année suivante, en 1638, qui marque en fait le début d'une série de sécheresses récurrentes accompagnées par d'autres types de calamités ou de problèmes. Cette année-là, en effet, les pluies ont été rares, donc nous sommes en 1638, les pluies ont été rares ou inexistantes, les paysans ne peuvent pas repiquer le riz, parce que le sol est trop sec, parce qu'ils n'ont pas d'eau, mais en fin de compte, ils arriveront, est-il dit, à sauver à peu près la moitié de leur récolte, en tout cas dans les zones les plus plates, mais pas dans les zones en montagne, en pédalant frénétiquement jour et nuit sur leurs pompes à palettes, peut-on supposer. Bien qu'ici, l'auteur en fait ne parle pas de ces longs goutteux dont je vous avais distribué une représentation la dernière fois, mais ne parle que d'un instrument qui ne peut pas être en fait ce qui veut dire dans cette région dont le nom est Tiegao, et qui est en fait... qui est en fait une sorte de système de fléau avec un contrepoids qui sert normalement à remonter des seaux d'eau du fond d'un puits. Or, l'irrigation par puits n'est pas du tout usuelle dans cette région et le système qui est, lui, d'utilisation universelle dans toute la zone des polders, c'est donc la chaîne à palettes actionnée par un pédalier que nous avions vu la dernière fois. Mais en tout cas, l'auteur dit bien que les paysans s'y épuisent jour et nuit. Quoi qu'il en soit, la réaction des autorités est intéressante. Prier pour la pluie en période de sécheresse fait bien sûr partie de l'arsenal le plus courant des mesures adoptées pour rétablir la situation dans ce genre de circonstances. Mais là, on fait les choses en grand. Et ce qui me semble quelque peu inhabituel, on procède, encore que ce serait à voir, mais d'après mon expérience, c'est un peu inhabituel, on procède non pas dans le cadre des cultes d'État, mais dans celui de l'Église taoïste accréditée. En effet, le grand coordonnateur, le Xunfu, c'est-à-dire le gouverneur, siégeant à Suzhou, confie à des prêtres taoïstes qu'il appelle des faguan. Et là, j'ai découvert avec une certaine surprise qu'aucun des grands dictionnaires, sauf bien sûr l'indispensable Morohashi, qui est le seul qui ne soit pas informatisé, faguan, pardon. Aucun des grands dictionnaires ne signale ce sens de faguan, qui signifie évidemment le plus souvent et littéralement un fonctionnaire de justice, hein, quelqu'un qui s'occupe des affaires légales, mais ici il s'agit de la loi divine, et Fagoan est effectivement, a le sens évident dans ce contexte de cette pièce, mais confirmé par d'autres textes, d'après le dictionnaire de Molorashi, de prêtre taoïste. Donc le gouverneur confie à des prêtres taoïstes la construction d'un hôtel spécial dans un établissement qui s'appelle le Xuan Miaoguan, qui est évidemment un nom absolument typiquement taoïste. Je ne sais même pas de traduire, mais enfin, mes collègues spécialistes du taoïsme ont tout un éventail de mots français pittoresques pour traduire ces titres impossibles, donc tout ce qui est mystérieux, merveilleux, etc. Enfin, le taoïsme. Donc, Xuan Miao et Guan est bien sûr le terme qui désigne un monastère taoïste. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc le Xuan Miaoguan, qui n'est pas n'importe quel endroit, en fait, c'est un des temples taoïstes les plus anciens et les plus importants de Chine. Et le gouverneur, donc, s'y rend un matin à l'aube au Xuan Miaoguan, à pied, et suivi de tous les fonctionnaires de Suzhou, ce qui fait beaucoup de monde, pour prier pour le retour à la pluie. Et il pleut un peu, en effet, mais pas assez pour rendre aux terres un degré d'humidité suffisant pour faire redémarrer la production. Et c'est alors, au milieu du 8e mois lunaire, donc vers la mi-septembre, que survient un événement auquel les habitants du Jiangnan ne sont absolument pas accoutumés. Une invasion massive de sauterelles. Je cite le texte. On n'avait pas anticipé que pendant la décade centrale du 8e mois, des sauterelles arriveraient du nord du fleuve. Elles volaient en masquant le ciel et en cachant le soleil, et même si, sur leur passage, elles n'ont pas tout détruit, le nombre de ceux qui ont eu à souffrir de leurs dégâts n'est pas petit. Les villageois viennent donc en masse se plaindre de la perte de leur récolte, et pour les secourir, le gouverneur offre de payer ceux qui auront capturé des sauterelles, c'est-à-dire, en tout cas c'est une des méthodes classiques, après qu'elles se sont posées, bien sûr, en les balayant pour les pousser dans des fosses où on les brûle, ou au contraire pour en remplir des sacs qu'on va rapporter à l'administration contre récompense. Et en l'occurrence, le tarif promis par le gouverneur de Suzhou en 1638, c'est 200 sapèques, donc 200 pièces de cuivre, pour 100 livres de sauterelles attrapées, donc presque 50 kilos. Ce qui fait beaucoup de sauterelles, je pense. Tout cela, c'est très classique, encore une fois, et il existe une littérature extrêmement abondante et plutôt répétitive qui traite des méthodes pour capturer et détruire les sauterelles, des méthodes qui supposent une mobilisation intensive et un encadrement serré de la population sur le terrain, et qui traite également des dispositions à prendre pour empêcher les sauterelles de se reproduire. Un grand nombre de manuels d'administration de la famine, justement, et ces manuels traitent aussi bien de prévention que d'intervention sur le moment, un grand nombre de manuels d'administration de la famine, ou même de manuels d'administration générale, destinés aux fonctionnaires locaux, comportent une section, parfois assez étendue, consacrée à cette discipline qu'on appelle la capture des sauterelles, c'est-à-dire bourrant, ou encore qu'on appelle le contrôle des sauterelles. Et dans ce cas, ce sera Zhurong. Donc, Bourang. Ou Zhu. Alors, ou bien on les attrape, ou bien on les contrôle. Dans ce cas, c'est le même mot, Zhurong. Hein, ces textes sont particulièrement nombreux à l'époque des Qing, et la plupart d'entre eux citent comme autorité les pages consacrées à cette question dans la grande encyclopédie d'agronomie de la fin des Ming que j'avais mentionnée la dernière fois, c'est-à-dire le Nongzheng Xuanshu de Xu Guangqi, dont la préface est précisément datée de 1640, donc au cœur même des événements dont je suis en train de parler. Je crois qu'on peut certainement dire que Xu Guangqi est la source de la science acridienne, ou plutôt de la science anti-acridienne, à la fin de la période impériale. L'occurrence des désastres causés par ces nuées de sauterelles qui migrent sur de très longues distances et qui sont capables de tout détruire dans les territoires où elles atterrissent est extrêmement irrégulière, au point qu'on peut tout simplement ne pas en entendre parler pendant de très longues périodes jusqu'à ce qu'elles réapparaissent tout d'un coup. Il se trouve en tout cas que dans la vallée du Yangtze, à tout le moins, la première moitié du XVIIe siècle est, autant qu'on puisse en juger, la période de plus grande fréquence des désastres acridiens, et de loin, pendant toute la période impériale tardive, c'est-à-dire sous les Ming et les Qing, Et il se trouve aussi que pendant ce demi-siècle, la fin des années 1630 et le début des années 1640 représentent le pic absolu. Il faut également souligner, et c'est important, que la répartition géographique de ce type de désastre en Chine est très inégale. En fait, la vallée du Yangtze se situe tout à fait à la marge d'une zone d'intensité maximale relativement localisée et qui est située nettement plus au nord, principalement dans les provinces du Hebei et du Shandong. Et c'est ce qu'a illustré de façon très parlante un géographe de l'université chinoise de Hong Kong, nommé Chen Zhengqiang, qui a cartographié les deux documents que vous avez en photocopie, c'est-à-dire, d'une part, la répartition des implantations Xiang. C'est un spécialiste de géographie historique, ce qui est une vieille discipline chinoise. C'est-à-dire, d'une part, dans une publication de 1965, il a cartographié, d'une part, l'implantation des sanctuaires propitiatoires dédiés à diverses divinités liées aux sauterelles. Et vous pouvez voir, d'ailleurs, dans le titre, ah, il les a mis très bien recto verso, vous pouvez voir dans le titre, en tout cas en chinois, que ces sanctuaires incluent le Baja Miao. Le Baja est un mot qui est une sorte de dieu de la sauterelle. Le Chongwang Miao, donc le roi des insectes en quelque sorte, et puis le sanctuaire d'un certain personnage appelé Liu Meng Tiangtun, le général Liu Meng, qui était également une divinité supposée protégée contre les sauterelles. Donc il a cartographié cette implantation, et d'autre part, il a cartographié la fréquence des désastres acridiens signalés dans diverses préfectures sous les Ming. Tout cela donc étant basé, les deux cartes étant basées sur le dépouillement d'une très large sélection de monographies locales. Et dans la deuxième carte, donc, la fréquence des désastres, vous voyez très clairement la manière dont le Tiangnan, donc l'embouchure du Yangtze, ou plutôt les régions situées immédiatement au sud, est en dehors même de la zone de fréquence moyenne. De même que dans la carte des implantations de temples, le Tiangnan est tout à fait à la limite des zones les plus densément représentées dans ces implantations de temples propitiatoires. C'est donc ce qui ressort de ces travaux de Chen Zhengqiang. Et la même chose vaut d'ailleurs pour le Hubei, sur le cours moyen du Yangtze, pour lequel j'avais relevé dans le temps toutes les occurrences de désastres naturels, y compris donc les désastres acridiens. Ces régions sont relativement peu concernées par ce genre d'événements. Il y a très peu de temples dédiés aux dieux des sauterelles, et le nombre moyen d'années séparant les invasions de sauterelles est beaucoup plus élevé qu'au Shandong ou au Hebei. Donc dans la zone la plus dense qui apparaît très clairement sur la carte des temples. Et c'est bien la raison pour laquelle, lorsque ces désastres surviennent, néanmoins, que ce soit au Tiangnan ou au Hubei, surtout sous les formes spectaculaires qui sont décrites aux alentours de 1640, ça impressionne énormément. Et pour le coup, c'est réellement considéré comme un événement extraordinaire. La rareté du phénomène sous de telles latitudes est d'ailleurs bien illustrée par cette remarque que j'avais trouvée, et c'est pour ça que je la cite, dans la monographie d'une préfecture du Hubei, à propos d'une de ces invasions de sauterelles des années 1640. L'auteur de la monographie disait, simplement pour montrer l'importance ou le caractère, la rareté du phénomène, disait « les habitants ne savaient même pas ce que c'était qu'une sauterelle ». Et tout d'un coup, ils en étaient complètement envahis. Et une source émanant de Suzhou, en fait, ou des alentours, aurait très bien pu dire la même chose. Il y en a peut-être qui le disent, mais je n'en ai pas rencontré pour le moment. On est arrivé aujourd'hui à une assez bonne compréhension de la combinaison assez complexe de facteurs biologiques, climatiques et environnementaux susceptibles de déclencher la multiplication soudaine et très rapide des sauterelles venant après des phases prolongées de quasi-disparition et ensuite leur décollage, si on peut dire, et leur migration à longue distance sous la forme de nuages. Et la sauterelle dont nous sommes en train de parler est d'ailleurs appelée par les spécialistes Locusta migratoria. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès l'époque impériale, dès les Ming, en fait, les Chinois avaient observé d'abord que les principales zones de reproduction de la locusta migratoria en question étaient les bandes inondables de terre laissées en friche et couvertes de roseaux et d'herbes non entretenues, le long du fleuve Jaune en particulier et de la Huaye, et plus spécialement sur les rives des lacs du sud du Shandong qui sont, ces lacs qui sont connectés au système hydrographique du fleuve Jaune, de la Huaye et également du Grand Canal. Ce sont donc ces régions au nord du Yangtze dont j'ai parlé tout à l'heure et qui apparaissent de façon tellement graphique, disons, sur la carte des temples de Baja, etc. Et ensuite, les Chinois de l'époque avaient également très bien observé les conditions écologiques qui favorisaient ou au contraire qui entravaient l'apparition et la multiplication des sauterelles, notamment le fait que couper les herbes et les roseaux dans ces franges inondables pour en faire du combustible gênait la multiplication ou semblait gêner la multiplication. Et pour cette raison, d'ailleurs, on encourageait les fonctionnaires locaux à faire procéder à ces nettoyages en espérant tuer les larves de sauterelles. Et il était de même constant, et il avait été parfaitement noté, remarqué, que la sécheresse, et c'est confirmé par la science moderne, par la biologie moderne, favorisait la multiplication des sauterelles. Il n'est donc pas impossible que les désastres acridiens dont nous sommes en train de parler aient été facilités, d'une part, par l'état d'abandon où se trouvaient très certainement ces zones, à cette époque, ces zones de marais au Shandong, à la fin des Ming, et d'autre part, en combinaison, par la sécheresse. Et c'est donc de ces régions du Shandong que s'envolaient ces essaims géants qui franchissaient le Yangtze et allaient s'abattre sur des localités où la sauterelle était vraiment un insecte étranger, un fléau venu d'ailleurs. Les sauterelles franchissant le Yangtze, l'auteur du Tijun Tiwenlu nous en donne en fait, en quelques mots, une description que je trouve assez saisissante et précise bien qu'il l'a vue de ses propres yeux. Apparemment, ce flot continu de sauterelles arrivant depuis le nord du fleuve, depuis le Tiangbei, a continué de se déverser vers le sud pendant plusieurs jours, au minimum, puisque un peu après en avoir parlé, en le datant, comme nous l'avons vu, de la deuxième décade du 8e mois, donc entre le 1638, donc quelque part entre le 10 et le 20 de ce mois, et après avoir évoqué les mesures prises par le gouverneur, dont il ne nous dit d'ailleurs pas quelles efficacités elles ont pu avoir, l'auteur ajoute ce court passage, je cite, « Le 25 du 8e mois, donc après cette période, comme j'avais à franchir le fleuve pour une affaire, je suis monté au sommet du Tinshan. » Et le Tinshan est une montagne qui se trouve, la montagne d'or littéralement, qui se trouve à Zhentiang, donc cette ville importante sur la rive sud du Yangtze, à l'endroit où le Grand Canal croise le Yangtze. Zhentiang. Donc il est monté, c'est-à-dire que l'auteur, de toute évidence, devant aller au nord du Yangtze, a emprunté le Grand Canal, ce qui était la voie normale, et donc il s'est arrêté à Zhentiang, il a grimpé au sommet du Tinshan, et de là, continue-t-il, j'ai pu voir de mes propres yeux les sauterelles volant au-dessus du vaste fleuve comme de la neige. Autrement dit, il évoque une sorte de blizzard de sauterelles qui voit de loin par-dessus le Yangtze, qui est immense en largeur à ce moment-là. Et cette simple notation m'a frappé quand je suis tombé dessus. Donc, à l'automne 1639, la région de Suzhou souffre de sécheresse depuis plusieurs mois et elle est envahie par les sauterelles. Le gouverneur envoie plusieurs mémoires à la cour pour rendre compte de ces calamités, c'est-à-dire, ce n'est pas précisé mais ça va de soi, c'est-à-dire pour réclamer sinon des secours que l'État serait bien en peine d'administrer à ce moment, du moins des remises d'impôts, et tout ce qu'il reçoit en réponse, c'est donc ce que j'avais souligné au début, c'est une fois de plus l'ordre de lever des suppléments d'impôts, des impôts supplémentaires. Et à partir de là, le mécanisme habituel se met en marche avec les manifestations de violence qui semblent être devenues la routine à cette époque. Les propriétaires qui doivent payer l'impôt ne veulent pas entendre parler d'accorder des remises de rente à leurs tenanciers, puisque c'est les rentes payées par les tenanciers qui constituent en fait, c'est sur ces rentes qu'ils pourront payer leurs impôts. Donc ils ne veulent pas entendre parler de remises de rente. Et lorsque vient le moment de payer leur rente, les tenanciers refusent de s'exécuter. Et pour peu, c'est l'auteur qui le dit donc, et pour peu que les propriétaires se risquent à hausser le ton, c'est l'émeute. Pire, aux yeux de l'auteur, dont nous avons vu que son cœur est toujours du côté des propriétaires fonciers, aux yeux de l'auteur, lorsque les propriétaires vont porter plainte auprès de l'administration, celle-ci se montre systématiquement indulgente envers les tenanciers délinquants. Et en fait, ce qu'il faut voir à travers ces notations, c'est un contexte social incroyablement tendu, où la sécheresse et ses conséquences ne font que multiplier les causes de conflits, et où les autorités font ce qu'elles peuvent pour éviter une explosion générale. En l'occurrence, en reconnaissant de facto aux tenanciers, donc à la classe théoriquement la plus pauvre, le droit de ne pas payer leur rente ou de les payer plus tard. Pour l'auteur du Ti Zhenqi Wenlu, cette façon de prendre le parti du petit peuple qui refuse de payer la facture constitue un encouragement déplorable aux activités illégales de ces fauteurs de troubles, cette fois-ci par de Luanmin, qui ne cessent de dénoncer. Cela étant, les autorités sont parfois obligées de répondre à la violence populaire par leur propre violence. Le texte évoque en effet, dans le même passage, le cas des propriétaires qui résident, eux, à la campagne, qui sont bien sûr beaucoup plus exposés que ceux, semble-t-il, de plus en plus nombreux à cette époque, qui sont venus s'installer en ville et qui font en fait gérer leur rente par des agents spécialisés. Là, affirme l'auteur du Ti Zhenqi Wenlu, là, les conflits autour du paiement des rentes se soldent couramment par l'incendie et par le pillage des résidences des propriétaires, à tel point que le gouverneur se sent obligé d'arrêter quelques meneurs et de les faire décapiter avec exposition publique de la tête pour servir de leçon. Xiao Shou, c'est en fait la forme maximale d'exécution, de peine capitale. Autrement dit, on décapite le condamné et sa tête, tout le monde a vu des photos de ça en fait. On expose sa tête sur les marchés pour servir d'avertissement aux autres. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un fonctionnaire local ne pouvait, ou même un gouverneur, ne pouvait en principe procéder à de telles exécutions sommaires que dans les cas de rébellion caractérisée, lorsque l'ordre public était immédiatement menacé. Donc c'est ce qui nous donne un peu, là aussi, l'ambiance pendant ces mois à Suzhou. Et en tout cas, il faut croire que c'était utile, puisque notre auteur affirme que pour le coup, les fauteurs de troubles sont devenus un peu plus prudents. Après quelques paragraphes consacrés à d'autres affaires, il est de nouveau question de cette sécheresse extrême. Et là, il emploie le mot « kanhan », encore un de ces termes dont on ne sait jamais s'il faut les comprendre, si c'est de la rhétorique ou s'il faut les comprendre de façon, disons, en faire une sorte de hiérarchie dans la gravité. Il est nouveau question de cette sécheresse extrême, cette fois-ci, pour en décrire les effets physiques à l'intérieur de la ville. D'après l'auteur, les canaux qui parcourent en tous sens Suzhou, intramuros, sont à sec. Les habitants n'ont plus d'eau à boire et les plus pauvres réussissent à gagner quelques sapèques en organisant des portages d'eau depuis l'extérieur de la ville. Et l'auteur va jusqu'à citer les prix pratiqués qui varient en fonction de la distance à parcourir pour aller chercher de l'eau hors les murs. Mais la situation ne cesse de se dégrader, le prix du bois de chauffage double pendant l'hiver, des incendies se déclarent un peu partout et le brigandage commence à sévir. Conclusion de l'auteur, la situation n'est pas belle à voir. Fei Tiating, donc Tiating, c'est pas un beau spectacle. La situation n'est pas belle à voir, et ces sombres considérations ne peuvent qu'être assombries encore par les nouvelles du front, c'est-à-dire en l'occurrence du ré audacieux qui a fait pénétrer cette année-là les Mandchous jusqu'à Linqing, au Shandong, et Linqing n'était pas n'importe quel objectif, puisqu'il s'agissait d'un des principaux centres commerciaux sur le Grand Canal. Nouvelle alerte pour la dynastie, donc, plus grave que toutes les précédentes, et qui se traduit par de nouvelles exigences fiscales, auquel il est d'autant plus difficile de satisfaire que, comme nous venons de le voir, l'année a été catastrophique. Les Mandchous se retireront au printemps de l'année suivante, lorsqu'ils trouveront qu'il commence à faire un peu trop chaud, et notre auteur, épouvanté par l'audace de ces barbares qui vont et viennent à leur guise dans le cœur même de l'Empire, conclut cette année 1638 sur une note particulièrement alarmiste en s'exclamant qu'avec cela, on a encore plus de raisons de s'inquiéter pour l'avenir. L'année suivante, 1639, n'est guère plus brillante, comme on va le voir tout de suite. Et j'y insiste encore une fois, l'intérêt du Ti Zhenqi Wenlu, c'est de rendre sensible, comme peu d'autres sources arrivent à le faire, je crois, cette progression dans le temps. cette accumulation de difficultés année après année, je dirais même cet effet de répétition qui devait peser si lourd sur les gens qui vivaient tout cela. Et aussi de rendre sensible la façon dont les choses s'articulent entre elles, c'est-à-dire les effets immédiats, mais ensuite les effets, les effets retardés de telle ou telle catastrophe, et en attendant la catastrophe suivante. Et tout cela s'accumulant donc sur pratiquement 4 années consécutives, qui ne fait que multiplier l'impact de tous ces événements. Le texte n'offre pas à proprement parler une histoire exhaustive des 10 événements. Ce n'est après tout qu'une suite de notes. Il y a certaines lacunes, même au niveau de Sujo, qu'on peut constater, enfin qu'on peut établir. Des lacunes dont nous verrons d'ailleurs qu'on peut en partie les combler avec d'autres témoignages. Mais si cette histoire n'est pas exhaustive, elle a l'incomparable avantage à mes yeux de ne jamais les séparer, ces événements, de leur environnement et de leurs répercussions sociopolitiques. Autrement dit, malgré un certain schématisme et parfois, je dirais même, une certaine désinvolture dans le récit, nous avons là un tout autre éclairage de la crise terminale des Ming au Tiangnan que celui que nous donnent les listes de calamités naturelles ou d'événements militaires, peut-être plus complètes, mais certainement plus complètes, qu'on trouve dans les monographies locales, ou qui sont des chroniques locales, justement, de la région. Et comme je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, on a avec le Tijunzi Wenlu un récit de la fin des Ming, et tout aussi bien d'ailleurs du début des Qing, dans les 4 derniers chapitres, dans lequel l'enchaînement des événements s'enrichit d'une vie, la plupart du temps absente des sources historiques plus sérieuses. Donc, 1639, 12e année de Chongzhen, l'auteur commence par parler une fois de plus des méfaits des soldats de l'administration du tribut. Cette fois-ci, il est simplement dit qu'ils se comportent en bandits un peu partout, mais surtout à Songjiang, donc la grande préfecture à l'est de Suzhou, dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière et dont je reparlerai bientôt. Ils pillent et ils tuent sans être inquiétés, car les hauts fonctionnaires ont bien trop peur d'une mutinerie générale pour essayer seulement de sévir. Le Tijunzi Wenlu, comme d'autres chroniques du même genre, et aussi comme l'autobiographie de Xu Zhetiao, lors de son passage à Shanghai un peu moins d'une 30aine d'années plus tôt, dont j'avais parlé, nous montre de façon vraiment systématique l'administration du tribut, donc ce prélèvement fiscal qui était considéré comme absolument essentiel pour la survie de la dynastie et qui était excessivement lourd au Tiangnan, l'administration du tribut, il nous en donne une image donc depuis le terrain, qui est particulièrement abominable. Et ceci est vraiment tout à fait systématique dans ce genre de sources, enfin dans ces sources, à la première personne dont je me sers. La sécheresse se poursuit de façon, semble-t-il, moins aiguë que l'année précédente, alors que la sécheresse de 1638, affirme l'auteur, on n'en avait jamais vu d'aussi grave dans le passé. Mais là, le texte n'est pas très précis, et ce que je comprends, c'est qu'il y a bien eu une récolte, et un peu plus loin, on voit que c'est la récolte d'automne, donc la principale récolte de riz, mais que l'absence de pluie oblige néanmoins, après cela, les paysans à pomper, là encore, jour et nuit, pour irriguer leurs terres, ce que suggère en tout cas cette notation, suivant laquelle on entendait partout le bruit incessant des pompes. Donc il faut imaginer que ça moulinait, disons, jour et nuit, pour faire monter l'eau, dans les rizières. Et la situation doit être suffisamment sérieuse pour qu'au 10e mois, qui correspond en gros à novembre cette année-là, le gouverneur organise de nouveau des cérémonies pour implorer de la pluie ou de la neige, mais cette fois dans un monastère bouddhique. Donc, de façon typiquement chinoise, il essaye toutes les variétés, disons, de religion. Sans résultat, jusqu'à la fin de l'hiver, est-il précisé. La population des 2 sous-préfectures de Suzhou, donc de Changzhou et Wuxian, commence à s'agiter. L'auteur parle même d'un début de rébellion, littéralement de bourgeon de rébellion, Luanmeng. Mais apparemment, l'autorité et surtout la popularité du gouverneur et du préfet suffisent à prévenir les gens, pour le moment, les gens de passer à l'acte. En dehors de cela, le texte évoque surtout pour cette année 1639 la tension qui règne à Suzhou même, une bande de criminels qui s'échappe de la prison, la fermeture des portes de la ville pour des raisons de sécurité, ce qui empêche d'ailleurs certaines fêtes religieuses de se dérouler normalement, et enfin des manifestations contre des magistrats de la ville, un fonctionnaire qui est décrit comme très bon administrateur, mais particulièrement corrompu et qui mobilise contre lui tous les lettrés de la ville. Et quand tous les lettrés, tous les étudiants de Suzhou se mobilisent et font des manifestations, ça fait de très grosses manifestations. 1640, explique le texte, n'a pas été une année de disette. On a eu une récolte de blé d'hiver et pendant l'été, les champs étaient couverts de riz en herbe, ce qui, en principe, a pour effet de limiter la hausse saisonnière des prix, même avant l'arrivée sur les marchés de la nouvelle récolte. Et pourtant, les prix vont être très élevés cette année-là et la situation sociale va être, pour le coup, tout à fait explosive. Et là, on perçoit parfaitement la fragilité de l'approvisionnement de Suzhou, qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dépend largement des importations de grains depuis l'extérieur. En 1640, les préfectures voisines souffrent en effet de sécheresse et d'inondations, et, dit l'auteur, que mi-bout de jeu, c'est-à-dire le grain des marchands de l'extérieur n'arrive pas. Les importations n'arrivent pas. Les prix grimpent jusqu'à 1,8 once par che. La population est paniquée, les autorités tentent de calmer le jeu en interdisant aux détenteurs de stock, et apparemment certains avaient vraiment de très grosses réserves dans leurs greniers, directement en ville, à Suzhou, sur lesquels ces détenteurs essayent bien sûr de spéculer. Donc les autorités leur interdisent de vendre à des marchands extérieurs, autrement dit d'exporter du grain. Elles mettent également des scellés sur tous les magasins de céréales. En bref, et c'est comme ça que l'exprime l'auteur, pas un seul grain ne doit sortir de la ville. Et pourtant, les prix continuent de monter et c'est bientôt l'émeute fomentée comme il se doit par les habituels fauteurs de troubles, encore que dans le cas présent, ces derniers sont décrits comme des gens du peuple misérables et sans emploi. Wulai, mais ce ne sont pas des Wulai. Shao, ce ne sont pas des schnappants, des jeunes schnappants, mais c'est des Tiongmin, donc des gens misérables en fait. Mais toujours des Wulai, toujours des gens sans occupation. On peut imaginer des chômeurs, ou je ne sais pas. Donc ce sont eux qui déclenchent des émeutes. Les greniers d'un certain nombre de riches lettrés, parce que ces détenteurs de stock ont toujours des titres académiques, sont attaqués et pillés, de même que tous leurs biens. L'auteur du Tijun Tiwenlu admet parfaitement les antagonismes de classe, leur existence, disons, qui pour lui est entretenue par l'égoïsme de certains riches. Il dit même, il est assurément naturel que la richesse suscite la haine. Entendons la richesse insolente des spéculateurs. Et malgré l'exécution sommaire de quelques meneurs par les autorités, l'agitation ne cesse pas, si bien que les hauts fonctionnaires de la ville finissent par faire ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, à savoir organiser un système contraignant d'entraide entre riches et pauvres, placé sous le contrôle étroit de l'administration avec des registres, des tickets, etc. Cette mesure, et je reparlerai de ce type d'intervention, mais cette fois-ci lorsque j'évoquerai les entreprises des associations charitables et non pas des autorités, mais toujours en 1640-41-42. Et cette mesure, malgré tout, semble avoir malgré tout ramené un peu le calme, n'empêche pas les prix de continuer à monter jusque au-dessus, cette fois-ci, de 2 onces par cheu, par hectolitre, ce que l'auteur considère comme un phénomène vraiment extraordinaire. Chen Yi Sheye. Sans présenter encore les caractéristiques d'une famine massive, comme cela va être le cas l'année suivante, c'est-à-dire 1641, qui est encore une fois un peu l'acmé de toute cette période de difficultés, et où la famine va avoir des conséquences jusqu'alors inimaginables pour les habitants du Jiangnan, et c'est donc ce que je vais traiter la prochaine fois. Sans qu'on en soit encore là, donc, l'année 1640 est une année de troubles et de conflits sociaux extrêmement violents dans toute la région. Le Tijun Tiwenlu l'évoque assez bien, mais là, je vais être conduit, à partir de maintenant, à évoquer d'autres textes qui complètent le tableau de façon importante, qui le complètent non seulement en introduisant d'autres faits et d'autres témoignages, d'autres localités, dans d'autres localités, mais aussi qui le complètent en introduisant d'autres regards que celui du citoyen de Suzhou, quel que soit son nom, qui a donc rédigé, ou faudrait-il plutôt dire qui a compilé, le Tijun Tiwenlu. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.